Radio Grand Ciel, bonjour. Émilie à la programmation, Simon à la technique et Caroline pour les expéditions des bateaux trésors. Marie était assise dans le chariot avec les autres enfants. Leurs corps s'entrechoquaient sur la route caillouteuse. Ils étaient escortés par l'armée impériale pour rejoindre Nankin, où, émasculés, ils gonfleraient les équipes d'eunuques qui servaient le palais, sur la porte duquel était inscrit « Les eunuques n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires publiques sous peine de décapitation ». C'était une belle prise, environ 300 enfants et adolescents. Chu Yuanchang, fondateur de la dynastie Ming, avait enfin soumis la province du Yunnan, dernière à rester sous la domination mongole. Il avait posté ses fils en garnison aux frontières de l'Empire pour prévenir les invasions barbares, où Ma He fut envoyé et enrôlé dans l'armée de Chu Ti, prince de Yan, stationné à Pékin. Il a servi avec diligence et a fait preuve de capacité. Il était modeste et prudent, n'a pas fui les affaires difficiles pour lesquelles il a acquis une bonne réputation parmi les fonctionnaires. Satisfait de ses services, le prince de Yan le nomma conservateur des quatre trésors du lettré. La bibliothèque lui étant désormais ouverte, remplissant de joie sa curiosité, il se consacra à l'étude en dehors de ses heures de service. Lorsque la mort de l'empereur Chu Yuanchang fut annoncée au prince de Yan par un messager à toute vitesse de son cheval, le nouvel empereur avait déjà été intronisé. Ressentant une violente injustice, Chu Ti, s'estimant l'héritier légitime, mena son armée vers Nankin, semant la terreur sur son passage durant 4 années de guerre, suivi de son fidèle compagnon d'armes, Ma He, déjà nommé commandant militaire. Les eunuques rancuniers ouvrirent les portes du palais impérial et front à terre crièrent « Gloire à Chu Ti, empereur Chengzu de l'ère Yongle !» Sous l'égide des instructions de l'ancêtre Ming, son père, qui conseillait aux futurs empereurs de la dynastie de refuser les guerres d'expansion trop coûteuses en vie humaine, et leur fournissant une liste de pays avec lesquels jamais ils ne devaient guerroyer, la Corée, le Japon, la Nam, le Cambodge et le Siam, tous pays frontaliers de la Chine du Sud-Est, Yongle consacra Ma He, amiral de la flotte impériale, sous le nom de Cheng He, pour une série d'expéditions maritimes, dans le but d'aller informer roitelets, chefs de tribu, sultans et maharaja des principes de relations internationales stipulés par Chu Yuanchang, suivre le Tao céleste, respecter la loi de la raison, ne pas enfreindre les règles, ne pas abuser des petits et des faibles, partager les bienfaits de la paix. Au chantier naval de Longtiang, sur la rive du Yangtze, des milliers d'ouvriers s'activaient jour et nuit à la construction des jonques dans un brouhaha rythmé de roulements de tambours. Des troncs d'arbres entiers de pins, de chênes et de camphriers, acheminés sur le courant des rivières par flottage, affermis par des outres de peau de chèvre gonflées d'air, étaient tissés sur les berges par des chevaux hennissants stimulés par les cris des charretiers et convoyés vers les séchoirs. De grands trous furent creusés au fond desquels étaient posées des colonnes soutenant des traverses sur lesquelles étaient construites les carènes des navires formées de compartiments cloisonnés. Mises à flot en perçant une brèche dans le bassin pour y faire pénétrer l'eau, elles étaient amenées jusqu'au quai aménagé le long du Yangtze où les bateaux étaient terminés par les charpentiers, les voiliers, les calfats, les cordeliers, tous formés à la construction sur des modèles réduits où l'assemblage de chaque pièce s'emboîtait parfaitement sans un seul clou. Dans les ateliers riverains, les bois étaient courbés à la vapeur. Les chaudrons de poids bouillaient. La pierre était taillée en ancre. Les lianes devenaient des cordages et les voiles tissées de lanières de bambou comme des nattes étaient maintenues par des listons aussi de bambou qu'on hissait ou descendait comme des stores selon la force du vent. Plusieurs dérives sous le vent et centrales stabilisaient le bateau, régulant son allure sans tangage, ainsi qu'il est écrit dans le manuel de la planète obscure, les bateaux, même lorsque le vent et les vagues deviennent furieux, ne dérivent pas, pas plus qu'ils ne se renversent. Les magasins regorgeaient de sucre, de viande séchée, de poissons fumés, thé, sel, huile, biscuits, médicaments, farine, d'outils, armes et poudres à canon et de rouleaux de soie, porcelaine, bijoux, prêts à être embarqués. Les Bao Chuan, bateaux trésors, spécialement conçus pour l'amiral Cheng He et les commandants, au nom poétique de pure paix, éternelle harmonie, navigation heureuse, arboraient 9 mâts. À l'avant du bateau se trouvait un arsenal et la garde personnelle de l'amiral, puis la cuisine et une réserve d'eau fraîche. Les appartements de Cheng He communiquaient en poupe avec ceux des hôtes de marque et en plein centre, sur le pont supérieur, un pavillon luxueusement décoré recevait les invités d'honneur. Il y avait aussi les bateaux-chevaux à 8 mâts, se partageant écurie et atelier de réparation. Les soldats étaient logés sur des 6 mâts. Les navires de guerre plus légers étaient plus maniables et n'avaient que 5 mâts, parmi lesquels les Wugongchuan, bateaux scolopendres percés de canons, les Yingchuan, bateaux aigles blindés, les Zimuchuan, bateaux mère et enfants, dont la mère enfermait dans sa coque un petit bateau à rame pour fuir lorsque, bourrée d'explosifs, elle était projetée contre les bateaux ennemis. Importants aussi étaient les bateaux ravitaillement et les bateaux citernes pour l'eau potable. Une ville flottante de 200 jonques transportant 27 000 personnes. Des soldats, des navigateurs, des ouvriers de chaque corporation pour réparer les avaries, des chroniqueurs, des calligraphes, des peintres, des traducteurs, des astrologues, des géomanciens pour étudier les phénomènes naturels, des botanistes, des médecins, pharmaciens, des cuisiniers, des capitaines, des pilotes, des matelots, des mousses. La flotte fin prête, Yang Le offrit une fête de départ à l'équipage en l'honneur de Tian Fei, la déesse du ciel, dont l'esprit comme un nuage rouge errait au-dessus des mers pour protéger les marins. Les fumées d'encens tourbillonnaient vers le ciel, accompagnées de psalmodies. Chacun reçut de l'empereur de l'or, de l'argent et de soie. Sous l'auspice de Tian Fei et le regard fier de l'empereur en cette année 1405, déployant ses voiles, la flotte de l'amiral Cheng He, poussée par les vents de la mousson vers des terres lointaines, comme l'oiseau glissant à travers les nuées, le sillon de sa nef disparut. Des Bao Chuan, tranchantes comme un couteau, les flots s'écartaient, laissant passer majestueusement les jonques aux flancs ventrus, comblés de trésors, bercés par le chant des matelots. Nuages de soie effilés, divine journée, filaient le long des côtes guidées le jour par le soleil et la nuit par des torches flamboyant au sommet des temples ou des collines, signalisant la côte. À l'approche du royaume de Champa, au sud-est du Vietnam, les pilotes sondèrent les fonds avec un poids enduit de graisse qui agglutine des sédiments. Il faut absolument observer le fond, car c'est en sachant la nature du limon ou du sable que l'on peut conclure si l'on peut ou non approcher la côte, peut-on lire dans le Meng Changlu. Ce petit pays de pêcheurs, lésé dans son commerce avec la Malaisie par les pirates, s'affairait aux préparatifs d'accueil de la flotte impériale, choisissant les plus beaux lapis-lazuli, entassant or et argent, cuivre, coraux, ambre dans des coffres à offrir en don de reconnaissance de la protection de l'empereur. Frôlant Bornéo, la sauvage, aux forêts tropicales mystérieuses, chaudes et humides, résonnant des cris stridents des gibbons, ils accostèrent à Java, où une colonie de marchands chinois les accueillit, échangeant épices contre porcelaine et soie. Une île joyeuse où la lune est fêtée chaque mois, mais dont les habitants semblent manquer d'humour, selon Marwan. Car si quelqu'un ose plaisanter avec eux, ils dégainent inévitablement leurs poignards et défient l'inconvenant en duel. Ils ont véritablement une drôle de manière de penser. Quant aux veuves, leurs têtes couronnées d'herbes et de fleurs, enveloppées de foulards, elles se jettent dans les flammes et sont consumées par le feu avec le corps de leur seigneur, en accord avec le rite de sacrifier le vivant avec le mort. Ou bien, elles partent avec le vainqueur d'un duel, criant « Le sort en décidera ». Les femmes veuves ont une drôle de vie dans cette île. Filant vers Palembang, la flotte armée de Chiang He engage une bataille navale contre celle de pirates chinois. 7 bateaux coulés, 10 réquisitionnés, 5000 renégats morts. Cheng Tsui, leur chef, fut ramené en Chine où il fut jugé puis exécuté. Cheng He y créa un Yuan Wei Shizi, sorte de ville stratégique comme celle existant déjà aux frontières de la Chine continentale, mettant à la tête un commissaire qui l'honora du sceau de vassalité et toute une colonie de Chinois sous ses ordres pour aménager le port, construire des entrepôts et des magasins. La flotte impériale pouvait désormais réparer ses bateaux et se ravitailler à Palembang, où l'on disait des plaines que les graines deviennent des plantes en un an et de l'or en 3 ans. Palembang pacifié et contrôlé permettait aux bateaux de s'engager dans le détroit de Malacca, formé par l'île de Sumatra et la péninsule malaisienne, dont les dangers n'étaient plus que les vents et courants, pour gagner le port du même nom, situé de l'autre côté de l'île, recevant la soie de Chine, le camphre de Bornéo, les clous de girofle des mollusques, le santal de Timor, le poivre et l'ivoire de Sumatra, le bois de Birmanie, le coton et l'opium de l'Inde. Devant une stèle qui stipulait « Son roi vertueux payant son tribut au souverain impérial souhaite que son pays soit traité comme un de ses domaines intérieurs et suive la voie chinoise. » Parameswara, roi de Malacca, fut honoré du sceau d'argent. Ceylan apparaissait au loin, dressant sa montagne sacrée, dont les pentes ravinées par la pluie laissaient luire les larmes de Bouddha sous le soleil, comme des rubis, des saphirs, des topazes, que Cheng He négocia contre des soies chatoyantes comme des gemmes liquides. Si l'échange des biens y fut propice, il dut infliger au roi de Kot une défaite magistrale qui eut la prétention d'aborder la flotte impériale. Cheng He nomma un nouveau souverain qui accepta le sceau d'argent. Quittant Ceylan, longeant la côte occidentale de la péninsule indienne vers le nord, la flotte fit une première escale à Quilon, où Cheng He érigea une stèle. Puis une deuxième escale à Cochin, qui reçut aussi une stèle. Et enfin celle de Calicut, qui commémorait la relation cordiale entre les deux pays. Bien que le voyage entre ces pays et l'Empire du Milieu représente plus de 10 000 lis, les gens sont néanmoins très similaires. Heureux et prospères avec des coutumes identiques. nous avons ici gravé sur la pierre une déclaration perpétuelle pour 10 000 ans. Les marchandises furent troquées à date précise par un intermédiaire qui, ayant analysé la cargaison, en établit la valeur en comptant sur les doigts de ses mains et de ses pieds. L'évaluation terminée, le courtier disait « Les mains jointes en ce jour, nous avons scellé les prix. Qu'ils soient chers ou bon marché, nous ne les changerons jamais. » Sur la route du retour vers la Chine, les marins entonnèrent en chœur, nuages se levant sur la mer, vents et pluies. Le tonnerre se mit à gronder, la mer se déchaîna, des hallebardes tombaient du ciel. Le vent poussait les bateaux vers les rivages. Gongs et tambours répercutaient les ordres à l'infini à partir du bateau amiral. On remplit les compartiments cloisonnés de la carène à l'avant du bateau pour éviter que la proue ne s'enfonce dans la mer. Malgré les dérives, les ancres flottantes furent lancées sous le vent. Et lorsqu'enfin le ciel s'éclaircit, les navires purent accoster au Siam, où Chiang Rai régla un différend entre deux souverains qui se disputaient le trône, remerciant le vainqueur de son tribut d'aloès, d'ivoire, d'éléphant, paon, perroquet, avec des rouleaux de soie, de l'argent, des pierres à encre et des pinceaux. « Dans ce pays, toutes les affaires sont gérées par les femmes », écrit Marwan, dans la triomphante vision de l'océan illimité. Les deux, le roi et les gens, s'ils ont des affaires qui nécessitent délibération, punition, ainsi que tous les échanges commerciaux, ils suivent les décisions de leurs femmes, parce que la capacité mentale des femmes certainement dépasse celle des hommes. Il les prêtait même aux Chinois, disant « Ma femme est belle et l'homme du royaume du milieu est délicieux avec elle ». Yongle accueillit avec orgueil le retour des bateaux trésors. « Les mers ont été conquises et la paix règne aux quatre coins », avait-il dit. « Et la cour était pleine d'ambassadeurs étrangers », fut écrit dans le Ming Chil Lu. « La voie est libre. Les Ming contrôlent le commerce maritime dans les mers du sud-est de la Chine jusqu'à la côte Malabar. L'empereur peut ordonner le quatrième voyage à la recherche de la perle d'Orient. » Les réparations faites, car sachez que quand ces navires passent aux réparations, on les renforce d'une nouvelle épaisseur de planches, bien rabotées et bien enduites, et fixées aux premières, avait écrit Marco Polo. Les préparatifs terminés, la flotte de Chiang Rai reprit la mer en 1416, les voiles gonflées par de bons vents. Passant par la route habituelle, il fit un tour d'inspection et se ravitailla dans les ports des pays et se ravitailla dans les ports des pays vassaux de l'Empire, jusqu'à Malacca, d'où ils rejoignirent le golfe Persique, à travers l'océan Indien, guidé par la Grande Ourse. Les pilotes calculaient la vitesse des navires en jetant à l'avant un morceau de bois attaché à une corde qu'ils suivaient en arpentant le pont. Des bâtons d'encens gradués, se consumant, indiquaient le temps qui s'écoulait. Au chant des marins, à l'aube si au sud-ouest c'est noir, il pleuvra avant midi, les pilotes sortirent la boussole aiguille montre sud pour garder le cap. Le ciel se dégageant, devant eux se dessinèrent au milieu de l'étendue bleue les plages de sable blanc frangées de cocotiers dont les palmes balayaient le ciel azur des îles Maldives dont Ibn Battuta avait écrit qu'avec leurs noix on fait du lait, de l'huile et du miel. Avec le miel, on fabrique des friandises et des confiseries que l'on mange avec de la noix de coco séchée. Mais on s'en sert aussi pour tresser les cordages. Leurs troncs font les charpentes des maisons et leurs feuilles les toits. Marwan, observateur perspicace, note que les villes n'ont pas de remparts et que les coquillages sont leur monnaie. Thank you. enfin Hormuz, perle du golfe Persique, et qui en produit tant que, d'après Marwan, tout le monde est riche. Au fond du gouffre, le dragon immobile infuse la sagesse de la perle lumineuse, protégée par les requins, les raies électriques et les poissons-cis, des pêcheurs qui, risquant leur vie, retiennent leur souffle et, lestés d'une pierre, plongent au rythme de chant pour décrocher des rochers le coquillage qui la renferme. Chang-he troque ses soies contre du corail, des tapis et plein de petits sacs de calicot rouge comblés de perles. Le roi offrit pour l'empereur des lions, des léopards, des chevaux arabes et une girafe qui lui sera présentée, comme on peut le lire sur le colophon de la peinture de Chengdu, comme une licorne haute de 15 pieds, aux cordes d'un, une queue de veau et des cornes de chair, avec des taches lumineuses comme des brumes pourpres. D'où est l'animal qui ne fut envoyé qu'une fois depuis l'Antiquité. La manifestation de son esprit divin s'élève dans les hauteurs de l'Empyrée. En 1421, pour la cinquième fois, les Bao Chuan reprirent la mer afin de raccompagner les ambassadeurs arrivés en Chine par la route de la soie terrestre. Laissant Hormuz à tribord, ils abordèrent la côte de l'Arabie heureuse à Aden, où l'odeur d'encens se mêle à l'iode. Les hommes peints en bleu, menant les caravanes, se détachaient sur l'ocre du sable. Aden est si riche que les femmes sont toutes parées de bijoux. Chang-he échangea de l'or, de l'argent et des porcelaines, du santal, du poivre, contre des gemmes, des perles et de l'eau de rose. À nouveau, il dut embarquer des zèbres, des autruches et un chapeau en or de perles serties offert par le sultan pour l'empereur. Continuant sa route, la flotte impériale longeait les côtes africaines. Mais où donc étaient les montagnes d'or, les rivières d'or dont tous parlaient ? On n'y voyait que des côtes désertiques où des huttes de bois se serraient le long de ruisseaux qui gargouillaient vers la mer. Des hommes d'ébène aux dents d'ivoire et des femmes portant des paniers sur leurs crânes rasés, des lunes d'argent pendant à leurs oreilles. L'or venait des montagnes que protégeaient d'impénétrables forêts, que seuls les caravaniers traversaient, transportant le métal précieux qu'ils échangeaient aux commerçants étrangers contre du riz, du millet et du blé. Les soies les plus brillantes et les plus fines que Chang-he lui fit miroiter persuada le marchand d'ouvrir ses coffres remplis de lingots d'or. L'affaire conclue, la flotte s'en retourna en Chine avec ce magnifique magot pour l'empereur qui ne le vit jamais car entre-temps il était mort au combat contre les Mongols. Les expéditions cessèrent sur ordre du nouvel empereur qui mourut peu de temps après, laissant le trône à Xuanzong qui, conscient du déclin de la situation commerciale maritime et la montée de la piraterie sur les côtes chinoises et jusqu'à l'intérieur des terres, ordonna en 1431 une expédition qui rendit Chang-he heureux de reprendre la mer. Prisant l'air qui apportait avec lui les senteurs de jasmin, de poivre et de vétiver, l'amiral, s'assurant à chaque escale que régnait encore la paix, conduisit à nouveau sa flotte jusqu'à la côte africaine. Mais dans ces contrées aux fortes chaleurs, où la fraîcheur n'existe pas, il fut pris de fièvre. Son esprit s'envola vers les cieux, tandis que son corps, emmailloté de coton blanc, s'immergea dans les profondeurs de l'océan. Thank you. vice-amiral déroulait de droite à gauche la carte des grands voyages accomplis depuis les chantiers de Long Tien Kwan aux pays étrangers, longue de 3 fois la hauteur d'un homme, où tout avait été consigné avec précision et minutie durant 28 ans de voyage, illustrant les côtes, les rochers à marée basse, la profondeur des chenaux, les pagodes, les entrepôts, les forêts, les embouchures des rivières, où était aussi inscrit le nombre de veilles, la hauteur des astres, la profondeur des eaux, les courants, les vents. S'infusant de l'âme de Shanghe qui animait ce paysage peint, il reconduisit en Chine les bateaux trésors en Berne. La stèle érigée sur le tombeau de Shanghe à Nankin confesse. Nous avons parcouru plus de centaines de milles, traversant d'immenses espaces aquatiques. Dans l'océan, nous avons vu des vagues gigantesques comme des montagnes qui touchaient le ciel. Nous avons posé nos regards sur de lointaines régions barbares, dans la transparence de la brume subtile entre nos voiles, noblement dépliées jour et nuit, comme des nuages continuant leur course, rapide, pareil à une étoile.